Donc on va procéder comme ça ce soir. Je vais faire une petite introduction avec deux exemples sur la situation des travailleurs aujourd'hui. Et puis en plus, après, Bouchra parlera. Donc moi, je suis Agathe Martin. Je travaille actuellement à la SNCF. Il y a quelques années, je travaillais à l'usine d'Aulnay-sous-Bois pour Peugeot, Peugeot Citroën, qui a fermé. Et Bouchra Dini, donc, qui travaille comme technicienne à L'Oréal, prendra la parole ensuite. Et on est toutes les deux candidates aux élections législatives qui vont suivre la campagne des élections présidentielles. Je vais vous donner deux exemples des conditions de vie donc, des salariés d'aujourd'hui. C'est deux exemples de la folie de l'économie au service des riches, deux exemples de la dictature du capitalisme. À PSA, en 2015, l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois a définitivement fermé ses portes. C'est maintenant une friche industrielle qui permet toutes les spéculations. Les copains qui ont travaillé là jusqu'en 2013 sont pour une part allés travailler à l'usine Peugeot de Poissy. Quelques-uns ont trouvé du travail dans d'autres boîtes et d'autres sont encore au chômage après 3 ans. Et personne ne chiffre la catastrophe économique que cela a provoquée pour les sous-traitants, pour les commerçants du coin. Mais Aulnay n'est qu'un exemple. En 3 ans, PSA a supprimé 17 000 emplois. Et cette boîte, qui prétendait être à l'agonie pour justifier les licenciements, les suppressions de postes, est prête maintenant à racheter Opel. Elle annonce pour 2016 2 milliards de profits. Moi, j'aimerais bien être au bord de cette faillite-là. Et oui, se débarrasser de 17 000 personnes, surexploiter ceux qui ont la chance d'avoir gardé un poste sur les chaînes de production ou dans les bureaux, bloquer les salaires pendant 5 ans et n'offrir cette année que 0,8% d'augmentation, oui, tout ça permet aux actionnaires de se gaver. Et c'est pareil dans les boîtes du service public. Après mon licenciement, j'ai retrouvé un emploi à la SNCF. Oh, j'aurais pu rêver de l'assurance d'un poste au statut de fonctionnaire, plus protégé que les salariés du privé. Mais là aussi, tous les moyens sont mis en place pour faire du profit. Maintenant, il ne faut plus parler de SNCF. Avec la réforme du ferroviaire, les chemins de fer ont été redécoupés en 3 EPIC, établissements publics d'intérêt commercial. Et les méthodes du privé arrivent dans les ateliers du public. Les mêmes méthodes de management, le flux tendu, les mêmes suppressions de postes. Quand je suis arrivée en 2013, on était 819 travailleurs à Châtillon. Cette année, on est 778, soit 31 personnes de moins, pour plus de trains à entretenir. Et puis, la précarisation des emplois s'amplifie. Là où autrefois travaillaient des cheminots, ce sont maintenant des sous-traitants, des prestataires et même, ceux qui ne se voyaient jamais il y a quelques années, des intérimaires, des CDD. Et puis, il y a toute la batterie des contrats d'avenir, des apprentis, des stagiaires qui font, pour des revenus ridicules payés par l'État, le travail qu'on ne peut plus fournir, faute de temps ou de bras. Tout ça augmente la productivité de chacun au détriment de notre santé et bien sûr en dégradant le service aux usagers. Mais Pépi, le PDG, se vante. Les effectifs ont été réduits pour près de 2000 en 2016, ce qui a permis des bénéfices de 511 millions d'euros pour SNCF Mobilité. Et les actionnaires des filiales privatisées de la SNCF peuvent se réjouir. Alors nous, dans tout ça, dans les ateliers de Châtillon, nous tentons de nous défendre face à toutes ces dégradations régulières. Pour le moment, les directeurs d'établissement avancent doucement pour appliquer la réforme. Et chaque fois qu'on le peut, on limite la casse. Par exemple, en décembre, on a fait embaucher une fille dans un atelier et on a réussi en janvier à maintenir à l'effectif un camarade dont le CDD était arrivé à expiration. En 2013, les salariés de Peugeot Citroën Aulnay ont vendu chèrement leur peau et la famille Peugeot a été obligée de payer la note pour nous licencier, alors qu'ils espéraient s'en tirer à moindre coût, bien sûr. Cette grève, c'est notre apprentissage de la lutte, comme il faudrait la mener dans toutes les entreprises pour obtenir ce qui nous est dû, Et c'est bien ça qu'on doit réapprendre à faire partout où on est. Dans les boîtes, mais aussi dans les quartiers, face aux dégradations de nos conditions de vie. Pas question de chanter avec les patrons et les politiciens à leur service qu'il faut faciliter les licenciements pour le bien-être des entreprises. C'est toujours la même chanson. Ils fabriquent des chômeurs pour faire des bénéfices. Et cette logique-là, cette logique capitaliste, nous devons la dénoncer. Et nous devons nous organiser pour aller chercher l'argent là où il est, l'argent pour les salaires, pour les emplois, dans les comptes des actionnaires. La candidature de Nathalie Arthaud nous permet de dire que nous devons retrouver le chemin des luttes. Il ne faut pas se priver de cette possibilité de nous faire entendre, de faire entendre le camp des travailleurs. Et je vais passer la parole à Bouchra.
Alors, travailleuses, travailleurs, à cette élection présidentielle, Nathalie Arthaud sera la seule candidate qui défendra clairement les intérêts des travailleurs, des chômeurs, des retraités et des jeunes. Car c'est la seule qui se place dans le camp des travailleurs. C'est-à-dire le camp de ceux qui n'ont que leurs bras ou leur cerveau pour vivre. Durant la campagne électorale, elle affirmera que les sacrifices imposés aux travailleurs ne sont pas justifiés, car la société est riche à milliards. Elle dira que les travailleurs doivent défendre leur droit à vivre décemment. Assurer à chacun un travail avec un salaire décent dans une société où il y a tant de besoins non satisfaits dans tous les domaines, c'est possible et surtout nécessaire. Élection après élection, les travailleurs font l'expérience qu'ils ne peuvent pas changer leur sort en votant. Ils savent que les politiciens, une fois élus, s'empressent de renier le peu qu'ils ont promis aux travailleurs pour faire la politique des riches. Hollande, qui a passé son mandat à piétiner le peu d'engagement qu'il avait pris en matière de justice sociale, ne l'a que trop montré. Alors il faut se saisir de cette élection pour exprimer son dégoût et sa colère contre la situation sociale actuelle. Il faut aussi s'en saisir pour dire qu'un autre monde est possible, une autre organisation sociale où le besoin de tous seront satisfaits en lieu et place des profits de quelques-uns. Il faut dire que pour cela, il faudra un jour exproprier la bourgeoisie, réquisitionner les grandes entreprises et que seul un mouvement puissant de l'ensemble des travailleurs pourra y parvenir. Les forces vives, c'est nous. Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Les progrès, les prouesses techniques, c'est nous. Eh bien, il faut l'affirmer et que ce soit notre boussole politique. Nos intérêts doivent passer avant les dividendes des actionnaires. À quelques mois du scrutin, à droite comme à gauche, les marchands d'illusions sont repartis à la chasse des voix. Que le futur président soit Fillon, Le Pen, Macron, Hamon ou Mélenchon, ils défendront l'autre camp, celui du patronat, le camp de ceux qui nous exploitent, le camp de ce qu'ils appellent la France, c'est-à-dire celui du capitalisme, de la productivité, de la compétitivité, de la recherche du profit à tout prix. Parlons de François Fillon, le candidat des Républicains, qui partage avec Le Pen les soupçons d'emploi fictif. Il sera bientôt le premier candidat mis en examen. Et il ose parler aujourd'hui d'acharnement contre sa personne. Le même qui parlait pour les délinquants de tolérance zéro se retrouve pris le doigt dans le pot de confiture. Alors prenons plaisir à le voir essayer de trouver des explications alambiquées pour sa défense, explications qui ne convainquent personne d'autre que lui, sa famille et sa bande de politiciens. Mais ce bourgeois qui ne trouve rien d'anormal à rétribuer des membres de sa famille d'1 million d'euros annonce un programme qui est une attaque claire contre le monde du travail. Avec la suppression de 500 000 fonctionnaires, la fin des remboursements de la sécurité sociale, la suppression des 35 heures, le report de la retraite à 65 ans, la suppression de l'ISF, l'abaissement des cotisations patronales, la simplification des licenciements économiques, la baisse du nombre d'hôpitaux ou encore l'augmentation de la TVA. Le Pen, elle, annonce des mesures abjectes contre les immigrés. Elle veut taxer l'emploi des salariés étrangers ou bien encore supprimer les remboursements de soins des travailleurs immigrés. Elle veut diviser les travailleurs en s'en prenant à sa fraction immigrée la plus faible, avant de s'en prendre aux autres. C'est comme dans une entreprise où le patron s'attaque d'abord aux intérimaires avant de s'attaquer à ceux en CDI. Les immigrés lui servent de bouc émissaire pour détourner contre eux la colère des autres travailleurs. Mais le seul responsable du chômage et des bas salaires, c'est le patronat. Car les licenciements chez PSA, chez Alstom et dans tant d'autres entreprises riches à milliards ne sont pas dus à l'embauche des étrangers. En rendant les immigrés responsables de tous les maux, Le Pen dédouane avant tout le patronat et les différents gouvernements présents et passés. Car s'il manque des emplois et des logements, ce n'est pas parce qu'il y a des étrangers, mais parce que les gouvernements qui se sont succédés, au lieu de construire des logements et d'embaucher dans les services publics, ont utilisé l'argent de l'État pour subventionner à fond perdu le patronat. Et regardez comment, suite à l'agression de Théo à Aulnay-sous-Bois, alors que la violence et le racisme des policiers sont flagrants, elle s'est immédiatement placée de leur côté. Elle n'hésite pas à dénoncer la violence de la jeunesse des quartiers populaires, dont elle fait volontairement l'amalgame avec les immigrés et qu'elle associe systématiquement aux mots « voyous » et « racailles ». Ces jeunes ne sont pas responsables d'être ghettoisés, d'être au chômage. C'est la société qui est responsable. C'est cette course à la productivité, à la rentabilité, qui met de côté bien des jeunes qui ne demandent qu'à travailler et se loger dignement. Alors, les manifestations de lycéens qui se succèdent en ce moment pour dénoncer l'attitude de la police répondent, comme il se doit, à l'arrogance de cette politicienne raciste. Le Pen ne veut pas changer ce système capitaliste, car c'est une politicienne bourgeoise qui se trouve très bien dans son château de Saint-Cloud. Oh, bien sûr, en démagogue, elle annonce quelques mesures en direction des classes populaires, comme la diminution de l'impôt sur le revenu de 10% sur les tranches les plus basses. Mais le plus significatif est qu'elle a retiré son annonce d'augmenter de 200 euros les petits salaires. Et elle ne parle plus que de primes de 80 euros par mois pour les plus bas revenus et les petites retraites. Or, chacun sait qu'une prime, ce n'est pas un salaire, et ça peut disparaître à tout moment. De plus, cette prime n'augmentera pas le pouvoir d'achat, car elle sera financée par une taxe sur les importations et entraînera donc une augmentation des prix. Et puis, elle s'est déclarée contre l'augmentation du SMIC, qui entraînerait, dit-elle, une charge supplémentaire pour les entreprises. En clair, une perte de profit pour le patronat. Et elle veut aussi supprimer le compte pénibilité et les cotisations patronales pour une première embauche d'un jeune sur une période de 2 ans, baisser de 33% à 15% les impôts sur les bénéfices des petites entreprises, maintenir, elle aussi, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, de 41 milliards versés tous les ans au patronat. Quant aux mesures protectionnistes que Le Pen préconise, elles seraient surtout des moyens de protéger les parts de marché des entreprises françaises et donc les profits des capitalistes français. Alors si Le Pen dénonce la gauche du fric et la droite du fric, c'est bien normal quand on représente l'extrême droite du fric. À gauche, Macron et Hamon ont accepté toutes les attaques contre le monde du travail quand ils étaient au gouvernement PS. Avec les reculs sur le droit à la retraite, l'augmentation du temps de travail, l'augmentation de la TVA, pour ne citer que cela. Grâce à ce gouvernement PS, le grand patronat a pu s'enrichir en baissant les salaires et en licenciant sans problème. Résultat, 1 million de chômeurs en plus en 5 ans. Et les voilà aujourd'hui qui nous promettent que tout va changer pour nous en mieux grâce à eux. Macron, ex-banquier d'affaires de la banque Rothschild, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée et enfin ministre de l'économie d'Hollande jusqu'en 2016, a mis en place les lois Macron qui permettent la généralisation du travail du dimanche, les plans sociaux largement facilités dans les grands groupes et qui exonèrent les petits licenciements, moins de 10 salariés, de toute justification ou contrôle. Elle supprime aussi le risque pour les patrons d'être poursuivis au pénal pour les infractions graves au Code du travail. Elle limite les possibilités pour les salariés de contester les plans de licenciement. Et puis, il a annoncé la suppression de l'ISF, la suppression d'au moins 120 000 fonctionnaires, l'économie de 15 milliards d'euros sur l'assurance maladie et 10 milliards sur l'assurance chômage. Et puis, la précarisation accrue du monde du travail avec son ubérisation de l'économie, c'est-à-dire zéro contrat de travail ni protection sociale. Alors, son programme, c'est celui du patronat. Hamon, depuis sa sortie du gouvernement, il cultive une ambiguïté qui peut faire croire qu'il est différent. Mais il continue à vouloir maintenir le CICE pour le réorienter, car il a été mal dépensé, dit-il. Mais il ne demande surtout pas au patronat de rembourser les sommes versées à ce titre, alors que celui-ci n'a créé aucun emploi. En cela, il est le digne héritier du Parti socialiste qui se met toujours à plat ventre pour servir les riches. Au sujet du SMIC, il dit vouloir l'augmenter, mais ne dit ni quand ni de combien. Et il ne chiffre même pas son montant, alors qu'aujourd'hui, il devrait être au minimum de 1 800 euros net, comme nous le revendiquons dans ces élections. Rien sur le chômage et les moyens à employer pour le combattre et obliger les entreprises qui font des bénéfices à embaucher. Il a fait du revenu universel d'existence son cheval de bataille. Il parle de 750 euros d'ici à 2022, parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et que les machines remplaceront les hommes. Sous-entendu, il y aura de plus en plus de chômeurs. Au lieu d'appeler à se battre pour garder nos emplois, voire de les répartir entre tous, il prône la résignation devant le patronat. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les entreprises du CAC 40 auront dégagé 75,5 milliards de bénéfices nets en 2016, en hausse de 32% par rapport à 2015. Alors l'argent, il y en a. Le revenu universel n'est qu'une aumône. Combien de gens vivant du RSA sont aujourd'hui obligés d'aller à Emmaüs ou au Resto du Cœur pour survivre ? Alors, ce que nous voulons, c'est un vrai travail et un vrai salaire. Il s'agit de notre dignité. Mélenchon, ancien ministre de Jospin, a lancé le mouvement de la France insoumise. Rappelons qu'il se réclame de Mitterrand, celui qui a contribué à faire chuter le Parti communiste en désorientant et en démoralisant nombre de ses militants, en instaurant l'austérité, alors que durant sa campagne de 1981, il promettait la rupture avec le capitalisme. Mélenchon, donc, n'hésite pas à parler dans certains de ses meetings de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. Il promet l'abrogation de la loi travail, les vrais 35 heures, le SMIC porté à 1 326 euros net. Comme si on pouvait vivre avec ça. Lui, qui reçoit une indemnité de plus de 6 000 euros net par mois en tant que député européen, ne voit même pas à quel point il est en dessous des réalités de la vie de tous les jours. Il se dit prêt à renverser la Ve République ou les traités européens, mais il ne se dit pas prêt à renverser le pouvoir du grand capital et de sa propriété privée des moyens de production. Il s'arrête, lui aussi, devant les intérêts du grand patronat. D'ailleurs, il promet de baisser l'impôt des sociétés, c'est-à-dire la taxe sur les bénéfices des sociétés, pour la ramener de 33 à 25%. Comme Le Pen et Dupont-Aignan, Mélenchon défend le souverainisme et l'indépendance de la France. Il parle de France insoumise, comme si la France était soumise à l'Europe, à l'Allemagne ou aux États-Unis. Mais la France, c'est qui ? Les travailleurs de France ? Ou les riches de France. Il parle de renégocier ou de sortir de l'Union européenne et de l'OTAN afin que le pouvoir revienne au peuple. Mais accuser l'Union européenne d'être responsable de notre situation, c'est en réalité dédouaner la responsabilité de nos capitalistes en France. Les seuls souverains dans cette société, ce sont les Bolloré, Bouygues, Dassault, ce sont les Michelin, Bettencourt, les actionnaires de Sanofi, de Renault. Que les lois se décident en France sous une 5e ou une 6e république ou à l'échelle de l'Europe, on reste dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. Alors ça, France insoumise, c'est en réalité la soumission des travailleurs derrière les patrons bien français. Tout cela est une façon toute nationaliste de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe et de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre eux et la bourgeoisie. Et il fait la même chose quand il parle des immigrés, en disant dernièrement « Aujourd'hui, c'est clair qu'on en a moins besoin parce qu'il faut d'abord qu'on relance notre économie. » Ou encore quand il dit « Je suis pour la reconduite aux frontières des gens qui n'ont pas une situation stable et légale dans notre pays. » Eh bien, ce genre de discours contribue à affaiblir notre camp, car il divise les travailleurs entre étrangers et nationaux. Alors, les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles déceptions. Nathalie Arthaud sera la seule à défendre radicalement et sans concession le camp des travailleurs, qu'ils soient français ou d'origine étrangère, athées ou croyants. Elle sera la seule à défendre notre camp, à nous tous ici, celui de nos parents, de nos enfants, de nos amis, de nos voisins. Elle sera candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Parce que la dictature du grand capital, c'est cette dictature ou le pouvoir des travailleurs. Il n'y a pas d'entre-deux. Il faut choisir son camp, et le nôtre, c'est celui des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs, il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs, qui doivent travailler pour gagner leur vie et qui ont à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. Lors de cette élection, au premier tour, nous avons la parole. Eh bien, ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous. Disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste et parallèlement à leur comédie électorale, mettons en avant nos idées, notre propre politique, une politique de classe, un programme de combat pour les travailleurs. Le premier point de ce programme, c'est d'arrêter le chômage. Nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que nous ne pouvons pas dépendre des aléas des carnets de commandes. Nous avons une vie, une famille, des loyers, des factures qui tombent tous les mois, même quand on a perdu un emploi. Il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens est d'interdire les licenciements, les plans de suppression d'emplois, les fermetures d'entreprises, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices et sous peine d'expropriation. Regardez Sanofi qui réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et qui a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore 650. PSA, l'entreprise Peugeot-Citroën, où travaillait Agathe, a réalisé 2,15 milliards de bénéfices en 2016 et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Et c'est pareil dans beaucoup de grands groupes. Alors il faut commencer par stopper tous ces grands fabricants de chômeurs. Et n'oublions pas les salariés des plus petites entreprises qui sont aussi concernés par les licenciements, car leur situation dépend bien souvent des grands groupes. Alors il faut imposer que tous ces grands groupes et les banques soient mis à contribution et payent pour préserver les emplois, y compris dans les petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici et là. Et puis tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Dans presque toutes les entreprises, dans le privé, mais aussi dans le public, la charge de travail a augmenté. Les horaires de travail auxquels il faut ajouter le temps de transport sont de plus en plus amples. Il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant de vrais emplois avec un salaire complet. Il y a un grand nombre de besoins dans la société, dans les hôpitaux, l'éducation nationale, dans la construction de logements publics et donc autant d'emplois à créer pour les satisfaire. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs qu'on comptabilisera, mais 8 ou 9 millions. Le chômage est un fléau qui aggrave la misère, qui marginalise. Il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Alors, La répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. À côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats susceptibles d'accéder à l'Élysée nous expliquent qu'il est impossible pour les entreprises d'augmenter le SMIC. Et les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner et même tout simplement à se nourrir, elles n'existent pas ? La CGT met en avant la revendication de 1 800 euros par mois. Et c'est vrai qu'entre le loyer, les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation, le gaz, l'électricité, l'eau, les assurances, la mutuelle, la voiture ou l'essence, c'est bien 1 800 euros net minimum qu'il nous faut pour tous, les salaires et aussi les pensions. Quant aux minima sociaux comme le RSA, l'allocation adulte handicapé, ils doivent être transformés en salaires. Car tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. En 10 ans, le SMIC a augmenté de 15% pour atteindre péniblement 1150 euros net. Savez-vous de combien a augmenté le salaire des grands patrons ? De 65%. Alors oui, il faut au minimum 1 800 euros net par mois et une augmentation minimale de 300 euros de tous les salaires. Et pour que ces hausses soient durables, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts, des taxes d'autoroute. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation, mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation, ses factures de gaz ou d'électricité pour voir que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Voilà un point qui nous sépare de Mélenchon, qui souhaite le retour de l'inflation, dont il espère qu'avec son programme, elle atteindra plus de 4% par an. À ce rythme-là, l'augmentation du SMIC qu'il promet, qui passera donc de 1150 euros à 1300 euros, serait annihilée en à peine 3 ans. La société est riche, très riche, et il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune accumulée au détriment des travailleurs depuis bien des années. C'est la raison pour laquelle il faut imposer la transparence sur les comptes des entreprises. C'est les salariés du groupe Vivarte, ex-groupe André, qui se battent en ce moment pour leurs emplois, avaient connu toutes les manœuvres financières de leur direction. Ils auraient pu davantage anticiper. Ils auraient pu s'organiser pour les dénoncer et se défendre. Ce sont les actionnaires et les fonds capitalistes qui ont écrasé l'entreprise de dette et ont siphonné les bénéfices du groupe. Et aujourd'hui, 2000 emplois risquent de disparaître. La transparence des politiciens, les politiciens, ils n'en veulent pas. Il n'y a qu'à voir comment Fillon se plaint pour s'en persuader. Nous, nous sommes obligés de rendre des comptes en permanence. Au moindre entretien d'embauche, on est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Alors oui, il faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. En réalité, c'est déjà un peu le cas de par la position qu'ils occupent dans leurs entreprises. Chaque travailleur peut savoir ce qu'il s'y passe. Collectivement, en rassemblant toutes les informations que chacun voit et entend, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent et le craignent. C'est pour cela qu'ils imposent le secret professionnel aux salariés. Il faut revendiquer de supprimer ce secret des affaires. Cette mesure est un objectif essentiel car elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en donnant de nouvelles armes à ceux-ci. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales et prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et alors, on mesurerait qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous les grands groupes. Et puis, nous sommes communistes. Et donc, pour la liberté de circulation et d'installation des travailleurs venus d'autres pays. Tout d'abord parce que beaucoup en ce moment viennent se réfugier du fait des bombes qui tombent sur leur tête en Syrie, en Irak et sur celles de leur famille. Ils n'ont pas demandé cette situation et en sont les premières victimes. Le gouvernement français a sa grande part de responsabilité. Alors la moindre des choses est qu'il accueille dignement tous ces réfugiés. Et puis nous savons que beaucoup de travailleurs du monde entier se déplacent pour chercher à vivre mieux que là où ils sont nés et où il n'y a pas de perspective pour eux et pour leur famille. Eh bien, nous devons comprendre que cela pourrait être chacun d'entre nous. Alors, faisons de la place à ceux qui souhaitent s'installer ici, car ils renforceront nos rangs le jour où nous aurons à nous battre contre l'ensemble de nos exploiteurs. Alors voilà le programme que défendra Nathalie Arthaud durant cette élection. Et oui, ce n'est pas un programme électoral. C'est un programme popularisant les objectifs que devront avoir les travailleurs le jour où ils reprendront le chemin de la lutte collective. Nous sommes communistes révolutionnaires. C'est pourquoi nous n'épargnerons pas cette bourgeoisie et ses profits, contrairement à tous les autres candidats qui veulent tous maintenir ce système tel qu'il est. Et puis, imaginez une entreprise où les salariés seraient toutes des souris, qui n'auraient comme représentants pour les défendre à leurs élections professionnelles que des chats. Croyez-vous qu'elles ont intérêt à voter pour ceux qui les croqueront, juste parce qu'ils ont une chance d'être élus? À quoi cela sert-il d'être majoritaire si c'est pour élire quelqu'un qui aggravera la situation sociale du monde du travail, quelqu'un qui sera notre adversaire? Alors, quand on est un travailleur, on vote pour un travailleur. Et parlons aussi de l'abstention ou du vote blanc, souvent évoqué parmi nos collègues et amis déboussolés. Il faut comprendre que ce sont des votes qui laissent la place aux autres, à nos ennemis. C'est en quelque sorte se soumettre à eux, alors qu'on peut utiliser le vote Nathalie Arthaud, qui, elle, se présente pour donner la parole à notre camp. Alors, j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour Nathalie Arthaud. Je les appelle à faire un vote de classe et de combativité. Nous n'avons pas encore de parti des travailleurs capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des années, s'ils sont désorientés, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis bien longtemps. Voter pour la candidature de Nathalie Arthaud permettra, le temps d'une élection, d'affirmer que nous devons être une force politique, un camp politique, qui n'est pas résigné. Ce sera un vote de dignité ouvrière pour se faire respecter. Mais il faut que ce camp se maintienne aussi après les élections. Car les travailleurs n'ont pas seulement besoin d'exprimer leurs intérêts au moment des élections, ils ont besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises et contre la politique anti-ouvrière relayée par les gouvernements. Et cela, c'est le rôle d'un parti. Alors, même si voter, ce n'est pas encore se battre réellement, c'est déjà se rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, cela participe à la construction de ce parti. Alors, votez et entraînez les gens autour de vous à voter Nathalie Arthaud pour faire entendre le camp des travailleurs dans ces élections.